Bonjour à tous pour ceux que j'ai pas pu voir au début du culte, enfin avant le début du culte. Tout ce qu'on a parlé, enfin les sujets de prière, ne sont pas complètement en dehors de, aussi de notre de cette dernière partie. La prédication qu'on va faire sur Colossiens, enfin, on a déjà fait toute une série, là on arrive à la fin. Puis aussi, en entendant parler aussi, c'est que dans les actualités, on a eu aussi dans les médias, les évangéliques ont été plutôt affichés, mais malheureusement, là cette fois, pas forcément de bonnes. Je ne vais pas dire de bonne foi, mais c'était très caricatural. J'ai lu quelques articles des évangéliques, bon, qui évidemment se plaignaient aussi, ou voilà, aussi le CNEF qui a dit, mais allez vers nous pour demander, enfin, qu'est-ce que c'est être évangélique, au lieu de faire prendre juste une église par-ci, par-là, et prendre ce qu'il y a de pire qu'on peut trouver. Donc c'est lié aux élections au Brésil, hein, surtout, hein, dans lequel il semblerait que les évangéliques voteraient pour l'homophobie, pour le racisme, pour le et puis tout le toute la une liste qu'on peut. Et j'ai lu un autre article qui m'a aussi je me suis interpellé et que je trouvais très intéressant. C'était sur le fait, au lieu de contester, de dire voilà c'est caricatural, c'est pas comme ça, et puis d'aller finalement en affront, plutôt se dire mais il y a une certaine vérité, même si elle est très minime par rapport à ce qu'il montre, hein, mais il y a une certaine vérité. Est-ce que il n'y a pas un danger que les églises deviennent, enfin, que certaines personnes ne veulent plus accueillir l'étranger, ne veulent plus enfin, être en affront, surtout sur des sujets qui pourtant sont de l'évangile? Parce qu'il y en a malheureusement. Moi, j'entends des choses parfois. Moi, ça fait pas très longtemps que je suis là, donc tout va bien. Mais j'entends des choses parfois qui me choquent profondément. Et je crois que c'est intéressant aussi de. Effectivement, c'est très caricatural. Les églises évangéliques ne sont pas comme ils sont décrits, mais il y a peut-être aussi un moyen, un mot. On peut se laisser aussi interpeller en se disant, mais comment? Nous pouvons montrer, en tant que notre église ici aussi, et les églises sur Nantes, comment on peut montrer que nous ne sommes pas des homophobes ou des racistes ou quoi que ce soit. Et là, pour la dernière prédication, on va lire le texte, hein, qui se trouve dans Colossiens 4, à partir du verset 2. Et on va le lire jusqu'à la fin. Que la prière soutienne votre persévérance. Soyez vigilants dans ce domaine, plein de reconnaissance envers Dieu. Lorsque vous priez, intercédez en même temps pour nous, afin que Dieu nous donne des occasions d'annoncer sa parole, de proclamer le secret de son plan qui concerne le Christ. C'est à cause de ce message que je suis en prison. Demandez donc à Dieu que, par ma prédication, je puisse faire connaître clairement ce message comme il est de mon devoir de le faire. Conduisez-vous avec sagesse dans vos relations avec ceux qui n'appartiennent pas à la famille de Dieu, en mettant à profit toutes les occasions qui se présentent à vous. Que votre parole soit toujours empreinte de la grâce de Dieu et pleine de saveur pour savoir comment répondre avec à propos à chacun. Tichik, notre cher ami et notre frère, qui est un serviteur fidèle et notre collaborateur dans l'œuvre du Seigneur, vous mettra au courant de tout ce qui nous concerne, tout ce qui me concerne. Je l'envoie exprès chez vous pour qu'il vous donne de mes nouvelles et qu'ainsi il vous encourage. J'envoie avec lui Onésime, notre cher et fidèle frère qui est l'un des vôtres. Ils vous mettront au courant de tout ce qui se passe ici. Vous avez les salutations d'Aristarque, mon compagnon de prison et du cousin de Barnabas, Marc, au sujet duquel vous avez reçu mes instructions. S'il vient vous voir, faites-lui bon accueil. Jésus, encore appelé Justus, hein, donc c'est Justus, vous salue également. Ces hommes sont les seuls croyants d'origine juive qui travaillent avec moi pour le royaume de Dieu. Ils ont été pour moi un encouragement. Épaphras, qui est aussi l'un des vôtres, vous envoie également ses salutations. En serviteur de Jésus-Christ, il combat sans cesse pour vous dans ses prières, pour que vous teniez bon comme des adultes dans la foi, prêts à accomplir pleinement la volonté de Dieu. Je lui rends ce témoignage. Il se dépense beaucoup pour vous, ainsi que pour ceux de Laodicée et de Hierapolis. Notre cher ami Luc, le médecin, et Démas vous salue. Veuillez saluer de notre part les frères de Laodicée ainsi que Nympha et l'église qui se réunit dans sa maison. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit également lue dans l'église de Laodicée et lisez vous-même celle qui vous sera transmise par les Laodiciens. Dites à Archippe, veille sur le ministère que tu as reçu dans l'œuvre du Seigneur pour bien l'accomplir. Moi, Paul, je vous adresse mes salutations en les écrivant de ma propre main. Ne m'oubliez pas alors que je suis en prison. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Voilà. Alors Paul, là, il est vraiment en prison. C'était pas bon. Il servait peut-être comme aumônier aussi, hein. T'imagines, quand on voit tout ce qu'il fait, il est peut-être aumônier plutôt en dehors de la prison, je dirais. Alors qu'il est en prison, il ne peut pas aller à l'extérieur, mais il fait beaucoup de choses pour l'extérieur. Oui, ça m'a beaucoup touché aussi encore ce texte. C'est vrai que c'est la fin de la lettre aux Colossiens et quelque part, dans les prédications précédentes, on a vu déjà pas mal de choses. Sur le but de cette lettre aux Colossiens. Et là, quelque part, on a la conclusion, quelque part, on a un condensé de tout ce que l'apôtre Paul a voulu dire. Alors peut-être qu'on se dit, mais pourquoi on doit faire encore cette prédication, alors que, bon, quelque part, on a déjà vu pas mal de choses concernant ces sujets de s'encourager à prier les uns pour les autres. C'est encore le cas dans ce passage. Annoncer l'évangile, ça aussi, on a déjà parlé de ça. Alors pourquoi l'apôtre Paul continue sur ces sujets-là? Il y a ce verset 2 qui dit que la prière soutienne votre persévérance. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ça remonte déjà à loin parce que c'était dans la prédication dans Colossiens 1 et c'était lorsque je suis passé au mois de mai. On avait parlé de la prière. Et c'était la prière qui portait les uns des autres, comme on a pu faire juste avant de commencer la prédication. Paul et ses collaborateurs sont loin géographiquement. Pourtant, ils ont déjà tellement à faire là où ils sont. Alors pourquoi ils prient pour des gens qui sont si loin encore? On pourrait se dire, mais qu'ils se concentrent là où ils sont, ils seront plus efficaces. Bon, c'est vrai qu'on vient de le dire, Paul, il se trouve en prison, alors il a peut-être que ça à faire. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que la prière est quelque chose qui est à faire. Et ce n'est pas simplement la prière où on se trouve géographiquement proche, mais apparemment, on peut prier pour même des sujets qui nous semblent loin. Il nous est demandé de prier pour cela. Puis dans les autres prédications que j'ai pu faire dans Colossiens, on a vu que il y a la prière, mais il y a besoin aussi que nous agissions pour notre vie. Que malheureusement, le péché nous détourne de ce que nous aurons, de nos vraies fonctions sur terre, de nos vraies fonctions pour lesquelles Dieu nous a créés. Et il faut qu'on mette, comme l'apôtre Paul dit dans Philippiens, oui, il dit de mettre aux ordures tout orgueil, toute convoitise, toute passion incontrôlée, et puis toute une liste qu'on peut trouver dans Colossiens également. Et oui, dans ce passage, on voit un peu tout se condenser. La prière et le besoin d'annoncer aussi l'Évangile. La prière pour s'encourager les uns les autres, la prière pour persévérer, la prière pour aussi persévérer à ce que peut-être un frère ou une sœur lâche certaines choses de sa vie, mais aussi annoncer l'Évangile. S'encourager à prier les uns pour les autres. Que la prière soutienne votre persévérance dans tous ces domaines que vous pouvez trouver dans votre vie. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas de porter tout seul ce que nous avons. Dieu est là pour les porter. L'Église est là pour nous porter. Les frères et sœurs sont là également pour porter tout ce que nous pouvons vivre. Et nous devons être vigilants, c'est ce qui est dit. Nous devons être vigilants, être attentifs à avoir cette vie de prière. Prier pour les occasions aussi d'annoncer la bonne nouvelle. C'est ce que l'apôtre Paul nous demande. Un sujet de prière que l'apôtre Paul tenait particulièrement, c'est le service de l'Évangile. Et puis il y a ce mot, vous avez peut-être mystère ou le secret du Christ. Révéler le mystère du Christ, révéler le secret du Christ. C'est dans le verset 3. Dans le verset 3, qu'est-ce que c'est ce mystère, ce secret? On va le voir tout à l'heure. Et ce qui est intéressant également, c'est que l'apôtre Paul ne demande pas aux Colossiens de prier pour que la porte de sa prison puisse s'ouvrir. Mais il demande à ce que Dieu ouvre une porte pour l'Évangile. Il demande que nous nous encourageons les uns les autres, que nous puissions encourager l'apôtre Paul, à ce moment-là, que l'Église puisse encourager l'apôtre Paul et les autres ministres pour apporter l'Évangile. Il ne demande pas que sa porte de prison s'ouvre. Et pourtant, ce serait un sujet tout à fait logique. Ce serait même, comme nous avons prié les uns pour les autres, pour que la guérison, pour que des situations puissent se rétablir. Une prison, c'est plutôt enfermant, c'est plutôt difficile. Et non, l'apôtre Paul semble dire que notre vie, notre objectif, c'est l'Évangile, l'annonce de l'Évangile, vivre de l'Évangile. Là, c'est là qui est l'essentiel, c'est que la porte s'ouvre pour ce mystère, comme il est dit, ce secret de l'Évangile. Et ça me fait penser à ce que je peux entendre aussi parfois, souvent, où je peux voir que bien souvent, on voit des vies qui sont enfermées, emprisonnées quelque part, des portes qui sont fermées et qui, pendant des années, on ressasse toujours les mêmes sujets, des préoccupations de la vie qui ne changent pas, des gens qui sont happés par par leur propre vie et à force oubliant que c'est l'évangile qui doit les animer. Ce ne sont pas les soucis qui doivent nous ronger d'année en année. Non, c'est se tromper de combat. Ce combat qui est aussi mentionné dans ce passage, ce frère qui combat pour dans la prière pour l'église de Colossiens. J'aurais dû noter les versets parce que à chaque fois. Le verset combien? Le verset 12. Il est long en plus, alors. Il combat, donc voilà, c'est Épaphras qui combat sans cesse pour vous dans ses prières. Oui, ce serait se tromper de combat que de mettre le focus sur simplement les difficultés, les soucis qui se répètent de jour en jour, d'année en année. Le combat, c'est pour l'évangile. Parce que c'est ça qui est notre vraie vie. C'est ça qui est cette vie qui va durer pour l'éternité. Le combat, il est là. Il est dans la prière. Et ce qui est bien, c'est que les autres le font pour vous. Épaphras le faisait, mais on peut citer tous les Aristarques, Marc, dans lequel il a un cousin Barnabas, Justus, Épaphras, qui est quelqu'un des nôtres apparemment, non, de Colosse. Luc, alors Luc, le cher médecin qui a écrit l'évangile de Luc et les actes des apôtres. Démas, les frères et sœurs de Laodicée. Les frères et sœurs de Nympha qui se réunissent dans une maison. Tout cela, ils travaillent pour le royaume de Dieu, c'est ce qui est écrit. Et eux, apparemment, ils sont vraiment un encouragement. Alors, est-ce que nous aussi, en tant qu'Église, ici où nous sommes, nous pouvons être aussi c'est Aristarque, c'est Marc, c'est Justus, c'est Epaphras qui sont là pour prier les uns pour les autres, pour les ministères de Agapé, pour les ministères dans la rue, comment? Arabe. Non. À chaque fois, je me trompe avec ce prénom. Comment ça s'appelle? Rahab, voilà, Rahab. Pour les mystères de l'aumônerie en prison, pour les églises qui se trouvent autour de nous. Est-ce que nous sommes capables de prier pour eux parce que eux, ils annoncent aussi l'évangile. Et nous aussi, nous annonçons l'évangile. Et je profite aussi de dire que la semaine prochaine, il se trouve que au niveau des prédicateurs, c'est un peu compliqué pour ce temps-là, donc j'imagine des nouvelles façons de pouvoir vivre le culte. Mais la semaine prochaine, on va passer un temps de louange, mais aussi de prière. Et ce sera un peu original, mais je vous laisse le mystère de comment ça sera. Mais ce sera vraiment un culte où on va pouvoir prier pour les uns les autres, pour les ministères qui se trouvent aussi dans la ville de Nantes, pour les ministères aussi au loin dans le monde. Et ce sera un temps, je pense, vraiment béni où on pourra encourager nos frères et sœurs. On pourra leur dire, mais j'ai prié pour toi, j'ai prié pour cette œuvre, j'ai prié pour que tu puisses, qu'un tel puisse guérir. Tous, ils travaillent pour le royaume de Dieu. Et c'est ça, l'encouragement. Et vous pouvez compter le nombre de fois où il est dit encouragement. Et vous pouvez aussi compter le nombre de fois de annonce de la parole. Et si vous faites le lien des deux et vous comprenez qu'est-ce que l'apôtre Paul a vraiment voulu nous enseigner dans ce passage, dans cette lettre même de Colossiens. Il veut nous montrer que nous sommes là pour encourager, que nous sommes là pour prier pour les uns et les autres. Mais nous sommes là aussi pour annoncer l'Évangile. Et puisque nous annonçons l'Évangile, d'autres vont aussi prier pour nous, pour que nous puissions garder cette persévérance, que nous puissions garder être encouragés à annoncer la parole. Et nous allons parler de ce verset 3 où il est dit le secret de son plan. Lorsque vous priez, intercédez en même temps pour nous afin que Dieu nous donne les occasions d'annoncer sa parole, de proclamer le secret. Vous avez peut-être mystère. Le secret de son plan qui concerne le Christ. Ce terme de secret ou de mystère nous montre que communiquer la bonne nouvelle n'est pas si évident. Et aussi que ça nous montre que c'est un message qui est spécial, qui n'est pas... qui est un peu original aussi. Et quelque part, secret nous montre aussi qu'on rentre quelque part dans une intimité aussi. Et peut-être du coup aussi une intimité qui peut déranger les autres. Alors, je crois que ça ne marche pas, hein. On ne peut pas... Oui, bon, j'avais quelques images qui étaient drôles, mais c'est pas grave. Une intimité, ce secret. Mais oui, parce qu'on parle de la vie. On parle de ce que, dans la lettre aux Colossiens, il parlait quand même des choses de plus avoir d'impudicité, de arrêter plein de choses que vous pouvez imaginer aussi dans votre propre vie. Il y a des termes qui sont dits, mais je pense qu'on pourrait employer d'autres termes aujourd'hui. Il parle des choses qui sont profondes. Mais ça fait aussi partie de l'Évangile, de pouvoir se dégager de ce qui empêche d'avoir cette communion avec Dieu. Et c'est peut-être cette intimité qui dérange, parce que c'était une image de Picsou qui nage dans les pièces d'or. Hein. Et il y a un jeu de mots où il dit « je nage dans le bonheur ». Alors souvent, le bonheur et l'argent, ça va un peu ensemble, hein, dans notre monde. Et je trouve que c'est intéressant parce que c'était chez lui, il est entre quatre murs avec ses pièces. Et je me suis posé la question, mais comment on communique, bon là, Picsou, c'est fictif, hein, mais comment on communique l'Évangile à une personne comme cela? Alors vous vous dites, mais... Il nage dans le bonheur. Alors, qu'est-ce que je vais lui raconter? L'Évangile, il est déjà dans le bonheur. Mais il ne connaît pas ce mystère, il ne connaît pas ce secret de l'Évangile. Si vous ne le communiquez pas, comment voulez-vous qu'il puisse accepter? Si en est la volonté de Dieu, comment il peut faire ce choix d'accepter? Parce que Dieu fait des miracles aussi pour des personnes comme cela, qui semblent nager dans le bonheur. Parce que dans cette nage du bonheur, l'Évangile met en lumière aussi tous les recoins. Et il n'y a pas que du bonheur dans ce que nous pouvons percevoir chez l'autre parfois, chez l'autre qui est non chrétien. Il a aussi ses noirceurs, ses obscurités. Mais si vous ne le montrez pas, si vous ne lui mettez pas ce secret, ce mystère, vous ne lui enseignez pas ce secret, ce mystère, comment voulez-vous qu'il puisse faire ce choix entre l'Évangile ou encore ces pièces d'or? Et je voulais aussi parler de cela parce que parfois on a tendance à vouloir annoncer l'évangile aux personnes les plus défavorisées, les personnes qui sont voilà, dans des gros besoins. Et il faut le faire. Et je crois qu'effectivement, et la parole de Dieu nous montre que quelque part ils sont plus réceptifs, probablement. Mais la parole de Dieu nous montre que nous devons aussi annoncer l'évangile à toute catégorie sociale. Et je crois aussi que depuis des siècles que l'Église existe, nous avons pu voir des catégories sociales de tous bords dans les églises et voir que finalement, je vais marquer cette phrase parce que je trouvais intéressant, que l'Église peut gagner autant avec les élites parce que ces élites peuvent s'identifier étroitement également aux pauvres. Il nous est dit de vivre, d'observer les enfants. Et je crois que on a besoin à chaque fois aussi de se dire, mais nous avons peut-être été cette personne, nous sommes encore certainement cette personne qui parfois on nage avec ce bonheur d'argent. Mais l'Évangile peut nous transformer, il peut nous montrer, nous pouvons avoir ce regard d'enfant aussi, comme Jésus nous appelle à avoir. Et l'Église, quelque part, se forme avec des personnes, effectivement, qui sont peut-être constamment dans le besoin, qui ont besoin de se reconstruire, qui ont besoin de peut-être plus d'attention, de plus d'aide des autres. Mais se forment aussi des personnes qui semblent, qui paraissent nager dans le bonheur, mais qui ont besoin aussi des uns des autres. Et c'est ça l'Église. Et c'est ça aussi que nous pouvons voir dans Colossiens où, quelque part, nous avons plein de noms qui sont cités, plein d'églises qui sont citées. Et ce sont des personnes qui viennent de partout, mais qui travaillent ensemble dans la prière. Et vraiment, ma prière, c'est que nous puissions vivre cette réalité de l'Évangile, se porter les uns les autres dans la prière, s'encourager les uns les autres, qui que nous soyons, quel que soit notre ministère, quel que soit ce que nous avons découvert comme ministère que nous avons, que nous puissions porter les GBU, par exemple, qui sont portés plus vers les étudiants ou le groupe biblique universitaire. C'est donc un groupe d'étudiants qui étudie la Bible et qui est là pour annoncer l'Évangile également à travers la lecture de la Bible. Alors, ce sont des catégories plutôt, on va dire, intellectuelles, on va dire, mais qui portent aussi des fruits parce que la parole de Dieu sème au milieu des étudiants. Et parfois, ils ont besoin de lâcher à un moment donné, peut-être, ce côté intellectuel, quand on est étudiant, on aime beaucoup étudier, peut-être des fois un peu trop. Mais aussi des ministères comme on l'a cité, Rahab, des ministères où ce sont des femmes qui ont été en conflit dans leur vie constamment et qui ont besoin d'être restaurées. Toutes les catégories de personnes ont besoin d'être restaurées parce que seul l'Évangile peut combler réellement notre vie. Et vraiment que notre Église, et j'espère que la semaine prochaine aussi, dans ce moment de prière que nous pourrons avoir, nous pourrons vraiment vivre cette réalité de l'Église avec toutes les personnes qui peuvent exister dans notre Église, avec toutes les personnes qui existent dans les églises, que nous puissions nous porter les uns les autres, nous encourager. Mais dans cet objectif, comme l'apôtre Paul nous le martèle, dans cet objectif de vivre l'Évangile
et parce que nous le vivons, d'annoncer l'évangile aux uns et aux autres. Faire grandir l'Église comme cela. Et je crois que là aussi, c'est un témoignage que nous devons porter aux journalistes, aux politiques, que oui, cette réalité, qu'il y a effectivement de toutes les couleurs, comme on aime bien des fois dire, qu'il y a de toutes les catégories sociales, qu'il y a de tout âge dans notre Église, et que nous arrivons à vivre ensemble, et que nous ne sommes pas pour cela racistes, que nous ne sommes pas non plus homophobes, que nous ne sommes pas... j'arrive pas à trouver, avec la fatigue, j'arrive pas à trouver d'autres choses, mais il y a plein d'autres choses, que nous ne sommes pas contre les femmes, que nous ne sommes pas, parce que ça aussi c'est des sujets des fois, bon, sexiste, voilà, oui, misogyne, que nous ne sommes pas, il y a plein de choses que malheureusement, des fois nous sommes un mauvais témoignage, parce que nous lisons, ça on avait vu, là, je crois que c'était il y a 2 semaines, parce que nous lisons parfois la Bible avec un regard qui n'est pas celui qui était à l'époque. Donc nous ne pouvons pas lire un texte biblique il y a 2000 ans comme il y a 2000 ans. Des choses se sont passées, une histoire. On parle de l'esclavage des fois dans la Bible comme quelque chose à peu près normal, même si quand même l'apôtre Paul montre qu'il est, voilà, il s'est fait à ce qu'il y a. Mais l'esclavage à l'époque n'était pas du tout comme ça s'est fait par la suite. Donc si on annonce l'évangile comme cela, de but en blanc, voilà, on parle de l'esclavage, il faut qu'il se soumette à son maître, mais on va aller en prison. Et donc on doit apprendre à bien lire la parole de Dieu, mais aussi à pouvoir bien la communiquer. Et je crois que j'ai loupé dans mes notes, mais il y a ce mot que j'aime beaucoup. Dans la Bible de Sommer, il parle de la saveur. Annoncer la saveur. Là encore, il va falloir que je cherche le verset parce que je me suis pas, j'ai pas bien mis. C'est le sel, sinon, si vous avez. Verset 6. Que votre parole soit toujours empreinte de la grâce de Dieu et pleine de saveur pour savoir comment répondre avec à propos à chacun. Avec à propos à chacun. Donc ça veut dire que en fait chaque personne, comme je l'ai dit, a une histoire différente. Chaque personne est différente. Et nous devons pouvoir apporter cette saveur. Ça, je trouve ça formidable, pouvoir dire ça. Donc, quand on dit apporter cette saveur, c'est pas dire les femmes n'ont pas le droit de prêcher, par exemple. Ça ne colle pas. C'est pas très savoureux de dire ça. L'évangile, c'est de pouvoir dire que cette saveur, c'est que, mais oui, j'ai reçu cette grâce de Dieu et que parce que Jésus a accompli ce que j'étais normalement censé être dans la mort, mais par la mort de Jésus, eh bien, je suis restauré. Et que par cela, eh bien, il y a cette Église qui s'est constituée. Et que Dieu, depuis le début, a voulu construire ce peuple, veut former un peuple. Et ça, c'est une saveur de pouvoir vivre les uns les autres, de pouvoir vivre avec toutes les différences, avec toutes ces saveurs différentes. Et ça, c'est porteur d'un message qui parle aux autres. Vous savez, on dit qu'on est assez individualiste, c'est vrai, hein, dans ce monde, on est assez individualiste, mais les gens s'informent. Ils vont sur Facebook, ils vont sur Twitter, ils vont sur Closer, ils vont sur plein de choses, mais il y a beaucoup de choses de négatives, mais des personnes s'informent quand même, cherchent à s'informer. Et c'est nous qui devons chercher, mais comment ces personnes-là qui s'informent un peu n'importe où, comment on peut leur apporter cette saveur que eux ils cherchent n'importe où? Trouver cette saveur qui est en fait mieux qu'un kebab ou qu'un McDo, mais un bon restaurant. Vous voyez ? Bon, là, je ne vais pas pouvoir donner des pistes, mais ce sera intéressant de réfléchir à ça là. Quelle est cette saveur que nous pouvons apporter? Que Dieu puisse nous aider à pouvoir construire cette Église ensemble, avec toute cette diversité, et que nous puissions être porteurs d'un message d'espérance, un message qui ne montre pas de limites dans l'amour de Dieu. Amen. Père éternel, merci pour ton message, pour oui, cette saveur que tu nous as apportée, cette saveur de l'Évangile, que tu puisses nous aider à pouvoir communiquer ton Évangile aux autres, que nous puissions communiquer aussi aux personnes que nous ne pensons pas forcément, peut-être aux personnes que nous avons l'impression qui sont déjà dans le confort. Mais toi, tu peux transformer les cœurs. Place-nous devant les personnes que pour que nous puissions transmettre ton message. Et nous savons que tu feras le reste, que tu vas ouvrir des portes, malgré que nous sommes bien souvent enfermés dans une prison, mais toi tu ouvres les portes de l'Évangile. Seigneur, pardonne-nous pour tous nos manquements, aussi dans ces domaines, et que nous puissions vivre cette réalité de la prière les uns les autres, des encouragements des uns des autres, en Église. En ton nom, nous te bénissons. Amen. Amen.